VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Violence en République centrafricaine. Poursuite à Khartoum au Soudan voisin du dialogue inter-centrafricain auquel participe le gouvernement de Bangui et les représentants des 14 groupes armés présents en Centrafrique. Objectif de négocier un accord de paix capable de mettre fin aux affrontements dans le pays. Les négociateurs planchent sur ce dossier depuis l'ouverture des pourparlers jeudi dernier. RCA toujours, environ 3000 centrafricains dont le Premier ministre Mathieu Simplice Sarandji ont manifesté ce lundi à Bangui pour exiger la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique décrété par l'ONU en 2013. Le gouvernement centrafricain respecte l'embargo alors que les groupes armés reçoivent des armes, a déclaré le chef du gouvernement. Le peuple centrafricain ne peut pas comprendre cette loi de deux poids, deux mesures, a-t-il souligné. Depuis 2013, l'ONU interdit à la Centrafrique de se procurer des armes et des munitions. Et les autorités de Bangui ont plusieurs fois vainement demandé la levée officielle de l'embargo. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit, comme il le fait chaque année, statuer sur le renouvellement ou non de l'interdiction d'achat d'armes. République démocratique du Congo, 3 étudiants et un policier ont été tués dimanche dans une manifestation d'étudiants à l'université de Lubumbashi, l'UNILU, dans le sud-est du pays. C'est ce que révèle le nouveau bilan établi ce lundi par la présidence congolaise, alors qu'un ministre et un officier de police sont visés par des enquêtes. L'officier de police Yavé Bertin, qui a ordonné de tirer sans sommation sur les paisibles étudiants, dimanche est déféré devant la justice militaire afin de subir la rigueur de la loi, dit-on dans le communiqué signé par le directeur du cabinet présidentiel, Vital Kamerhe. La présidence congolaise note par ailleurs que la décision ministérielle portant réajustement des frais académiques est suspendue. RDC toujours, les évêques catholiques de la région du Kasaï dans le centre du pays ont salué l'accession de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo. Une initiative qui semble se démarquer de la position de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le point avec Idrissa Sedoudia.
Nous bénissons Dieu pour le nouveau président de notre pays, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ont écrit dans un communiqué 6 des 8 évêques de la région du Kasaï, fief du nouveau président de la RDC. Nous remercions Dieu aussi pour la première alternance pacifique et démocratique au sommet de l'État par la voie des urnes, obtenue le 30 décembre 2018, marquant le début des temps nouveaux. En RDC, ajoute-t-il, dans ce Congo nouveau, l'Église ne sera jamais ni distraite ni partisane, ont insisté ses évêques. Cette première alternance pacifique et démocratique est une opportunité unique pour que chacun de nous entre dans une nouvelle culture politique, ont-ils ajouté.
Au Cameroun, au moins 6 personnes ont été blessées, une centaine d'autres interpellées, selon le gouvernement, lors des marches illégales de samedi dans plusieurs villes du pays. Ces manifestations ont été organisées par le parti d'opposition MRC, dirigé par Maurice Kamto, arrivé officiellement deuxième lors du dernier scrutin présidentiel. Le candidat perdant a pris l'initiative de ces marches pour dénoncer les résultats de la présidentielle d'octobre 2018. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Des tirs de balles des policiers samedi matin dans les rues de Douala. Face à face, au lieu dit Lokpom, les forces de l'ordre et une vingtaine de manifestants conduits par Célestin Diab, un cadre du MRC. Subitement, Célestin Diamen est blessé. Il a reçu une balle à la cuisse. Le cadre du MRC est conduit à l'hôpital général de Douala. Alerté, les militants du MRC se ruent vers l'entrée de la formation hospitalière. La police arrive sur les lieux pour une intervention. Serge Aimé, un témoin.
C'était la lancée des gaz lacrymogènes. Beaucoup ont décidé de prendre la fuite.
Ce sont des balles.
Oui, et ce sont des preuves. J'en ai besoin pour plus tard.
Au cours de cette intervention policière, l'avocate Michel Ndoki, membre du MRC, est blessé à la cuisse droite. Les images de Maître Ndoki recevant les soins médicaux font le tour des réseaux sociaux. L'avocate témoigne avoir reçu 2 balles dans la cuisse droite.
On m'a tiré dessus, les gens fuyaient. Si on avait été des milliers, ils n'auraient pas eu besoin de fuir. Vous pouvez voir ce qui arrive à toute une Michel Ndoki soi-disant. Imaginez ceux qui n'ont pas de nom.
Dans l'après-midi, Maurice Kamto, président du MRC, arrive à Douala. Sans heurts, suivi par une foule de sympathisants, il prend la tête d'une marche en direction de l'hôpital général de Douala, où il va rencontrer ses militants blessés. Hormis Douala ce samedi, des manifestants se sont aussi regroupés à Yaoundé, au centre-ville, à Bafoussam et Mbouda, dans la partie occidentale du Cameroun. Tard dans la nuit, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, va dresser le bilan de cette journée de marche à l'appel du MRC.
Aucun coup de feu à balles réelles n'a été tiré. S'agissant de Douala, 6 blessés ont été enregistrés, parmi lesquels 2 activistes bien connus du public. À Yaoundé, Bafoussam et Mbouda, plusieurs individus ont été interpellés et placés en garde à vue.
Le gouvernement semble exacerbé par les appels à manifester du président du MRC et promet de faire appliquer la loi contre ce parti politique. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale.
Si le responsable d'un parti politique décide de défier l'autorité de l'État, le ministre de l'administration territoriale est en droit de prendre certaines mesures conservatoires. Et si jamais les indices concordants de perturbation de l'ordre public sont établis contre ce promoteur, son parti politique peut définitivement être interdit sur l'étendue du territoire national. C'est un message assez clair.
Selon le chronogramme du MRC, ce parti entend organiser à Yaoundé une marche spéciale le 9 février prochain. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, 10 personnes ont été tuées dimanche à Sikiré, dans le nord du pays, dans une attaque qualifiée de terroriste par une source sécuritaire et un élu local, selon l'AFP. Le point avec Jean-Roger Bion.
Selon un élu local de la commune d'Arbinda, joint depuis Ouagadougou, les assaillants armés de Kalachnikov ont fait plusieurs tours dans le village et ouvert le feu sur les habitants. Ils ont saccagé et incendié des boutiques et autres commerces et emporté des motocyclettes et un tricycle, a ajouté l'élu sous couvert d'anonymat. Toute la journée, les populations sont restées chez elles, gagnées par la psychose de ces attaques qui se multiplient dans la zone, a-t-il dit. Le 10 janvier, 12 personnes avaient été tuées dans le village de Gaseliki, localité située à une trentaine de kilomètres au sud d'Arbinda. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Attribuées au groupe djihadiste Ansaru l'Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jessim, et à d'autres groupuscules, elles ont fait plus de 280 morts depuis 2015.
Afrique de l'Ouest toujours, au Mali, le gouvernement vient de prendre d'importantes mesures pour rationaliser les dépenses publiques afin d'assumer pleinement les charges prioritaires de l'État. Des mesures qui portent notamment sur les dépenses concernant les achats de carburant, véhicules et billets d'avion pour les missions. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le Mali traverse une crise de trésorerie. Le trésor public ne parvient plus à payer les mandats des commerçants et autres fournisseurs. Pour atténuer la situation, le gouvernement annonce une rétention globale de 14,194 milliards de francs CFA sur tous les crédits affectés aux dépenses en carburant et en produits alimentaires. Massiré Diop, journaliste économique.
Je pense que c'est une excellente chose. Il faut que ça se concrétise. La réduction du train de vie de l'État, il ne faut pas que ça soit un effet d'annonce tout simplement. Je pense que ça peut marcher, mais accepte créer en tout cas une commission qui puisse permettre de contrôler si cette réduction du train de vie de l'État est effective et quelles sont aussi ses incidences sur le pouvoir d'achat des populations.
Ainsi, les départements ministériels, les institutions, les autorités administratives et indépendantes, tout comme les gouverneurs des régions et du district de Bamako, sont invités à réduire leurs dépenses en carburant et en produits alimentaires. Tout achat de véhicules pour les années 2019 et 2020 sera désormais soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'Économie et des Finances. La réduction du train de vie de l'État malien doit être un acte et non des propos en l'air. C'est ce que souhaitent certains Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Archipel des Comores dans l'océan Indien, le président comorien Azali Assoumani, candidat à sa réélection le 24 mars après une réforme constitutionnelle controversée, assure qu'il n'y a pas d'arrestation politique dans son pays. Les interpellations et condamnations récentes de plusieurs membres de l'opposition étant selon lui des coïncidences malheureuse. Et pour terminer ici aux États-Unis, le gouvernement fédéral américain a rouvert ses portes dans son entièreté après plus d'un mois de paralysie de certaines administrations. Le président Donald Trump et les parlementaires ont trouvé un accord pour 3 semaines. Le budget fédéral est donc financé jusqu'au 15 février, mais le président Trump laisse toutefois déjà planer la menace d'un autre shutdown. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.